Alors là, une fois de plus, nous allons avoir la surprise d'une convergence entre les événements et la paracha de la semaine. Vous allez le décortiquer par vous-même d'ailleurs, sinon je vous l'indiquerai très facilement pour ceux qui ont écouté la radio toute la semaine. Alors, Shoftim et Shotrim, des juges et des policiers, c'est quoi le problème? Non, répondez, c'est quoi le problème? Les policiers, non, c'est les juges, vous allez voir. Alors, Shoftim et Shotrim, des juges et des policiers, Titenecha, tu te donneras, tu installeras pour toi, Bechol Sharecha, dans toutes tes portes, dans chacune de tes portes. Les Sharim, les portes des villes, c'est précisément l'endroit où siégeait le tribunal de la ville, à l'entrée de la ville, dans le cas où différentes raisons dites la nuit, mais en particulier dans le cas où des étrangers arrivant à la ville avaient à demander assistance. Et il y a déjà une indication qui sera reprise de manière plus précise par la suite, dans les versets qui suivent, c'est que chaque tribu devait avoir son tribunal. Sur ce premier verset, très rapidement sur cette idée, nous l'avons, je crois, étudié il y a quelques parachutes, c'est que, peut-être même la semaine dernière, il me semble, je ne sais pas, c'est que, non, je veux dire, quand est-ce que nous l'avons étudié pour ce qui était là, à la paracha de Matot, il y a une différenciation par tribu dans l'unité du peuple d'Israël, mais cette différenciation est concrète, elle est réelle. Réouven, Shimon, Lévi, Issachar, Zbulon, chacune des tribus, c'est Israël, mais Israël a un certain profil spécifique, génial pour lui-même, et par conséquent, il faut s'habituer à l'idée que dans l'Israël biblique, il y a 12 Israël en un seul. Cette différenciation en tribus, c'est le reflet de la multiplicité des nations en Israël. Les différents niveaux du reflet de cette multiplicité, c'est 70 et 12 qui sont 13. Mais en fin de compte, la période de la différenciation des profils d'identité d'Israël en tribus est close à partir de la destruction du premier temple. Sauf de très rares exceptions, les familles ne savent pas s'identifier, s'affilier aux tribus d'origine, qu'on appelle les Yochassin. Comment dit-on en français les Yochassin? Ça m'échappe. Yerous, comment on dit en français? Généalogie ascendante. Le Yerous, c'est-à-dire le fait qu'on se rattache par les ancêtres à une source connue. C'est un mot qui est passé en yiddish, mais regardez le sens qu'il avait en hébreu. Les Yahes, c'est relié à Yahasi, Yahas. Eh bien, sauf de très rares exceptions, il y avait quelques familles qui ont gardé leur Sefer Yochassin, leur livre de Yerous, jusqu'au temps biblique. Et en particulier, grosso modo, disons la tribu de Lévi. Bien sûr, les Lévi savent s'affilier à la tribu de Lévi. Mais il y a différentes traditions dans certaines communautés. En général, j'ai remarqué, tout ce que j'ai pu compulser, qu'énormément de familles se réclament de la descendance du roi David. Et ça nous promet des compétitions messianiques le jour de l'année. Mais il y a dans certaines communautés certaines traditions dont beaucoup sont fondées d'ailleurs. Parce que ce genre de mémoire est important dans une communauté, dans une tradition, qui se rappelle, enfin qui se rattache à telle ou telle tribu, mais d'une façon générale, les juifs qui se connaissent, les juifs de l'histoire historique qui se connaissent, parce qu'ils sont perdus chez les nations, descendent de deux tribus ennemies, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, et la moitié de la tribu de Manassé, la moitié sud, la tribu de Manassé, et de la partie des Lévites qui faisait partie du royaume de Judée, qui était le royaume du sud. Mais des familles de toutes les autres tribus s'étaient réfugiées dans le royaume de Juda. Ce qui fait que les Juifs, qui sont les descendants des Judéens, récapitulent quand même d'une certaine manière L'origine est l'une de toutes les tribus d'Israël, quelles que soient les dominantes connues. En particulier, il y a une dominante connue au Maroc, qui était la tribu d'Éphraïm. La Bible indique qu'il y avait des problèmes de prononciation dans la tribu d'Éphraïm, par lesquels on reconnaissait les gens d'Éphraïm. Sibolet, Shibolet. Et effectivement, cette confusion, disons que le Sim et le Shim, était très répandue chez les Marocains au Maroc. En Israël, c'est devenu folklorique. Vous savez quelle est la définition de la Messiba chez les Marocains ? Michel Baba, Michel Obaloba. C'est le Sim et le Shim. Il y a beaucoup d'autres indications de ce genre. Mais d'une certaine manière, du point de vue de la halakha, on ne tient plus compte de la différenciation en tribus. Seulement, il y a une différenciation différente et de même forme originelle, je vais expliquer, qui s'est substituée, c'est la différenciation en communauté, les Aedot. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de Shvatim, sinon par façon de parler, mais il y a des Aedot, des communautés d'origine, de l'exil. Et effectivement, formellement, il faut bien se rendre compte que les enfants de Jacob sont tous nés dans l'exil, avec l'exception de Benjamin, qui est conçu dans l'exil, né sur le chemin. C'est tout le problème de Bethléem, tout le problème de Kever Rachel, enfin, toutes ces grandes questions qui reviennent à l'histoire, je vous le dis. Non, schématisant, on peut dire qu'effectivement, la différenciation des profils d'identité différents en Israël vient des paysages d'exil d'où nous revenons dans les moments de sortie d'exil. De la même manière que les tribus d'Israël, les fils de Jacob ramènent les paysages de l'exil de ce temps-là, de la même manière, les paysages humains, anthropologiques. De la même manière, les communautés revenues de l'exil ramènent une typologie très très parallèle de la différenciation des nations. C'est-à-dire, je pense que c'est clair le problème. En quoi les Juifs sont différents, pas en tant que Juifs, mais en tant que Juifs de Goïm différents. C'est clair, je suppose, la formule. J'ai l'habitude, quand je parle de ça, de dire que lorsqu'un Juif marocain et un Juif polonais se heurtent, c'est pas du tout le Juif qui heurte le Juif, c'est le Marocain qui heurte le Polonais. C'est le Marocain qui est derrière et le Polonais qui est derrière qui n'arrive pas à s'arranger complètement. S'il y a une chance qu'il s'arrange, c'est parce que c'est à travers des Juifs. Mais s'il n'y avait pas des Juifs, l'identité juive relais, eh bien ce serait impensable qu'un Polonais et qu'un Marocain puissent faire le même peuple. Il peut y avoir des mariages mixtes, même chez les Goïm, mais faire peuple avec des civilisations, des anthropologies aussi différentes, ça a été le problème d'Israël. Je pense que c'est clair. Donc ça, c'est un sujet important pour lui-même, le problème de la différenciation en tribus. Et lorsqu'il y a l'indication que je vous ai donnée ici, est extrêmement importante, c'est que chacune de ces tribus devait avoir son propre tribunal. Parce qu'il y a une connaissance concrète, profonde, familière de la manière d'être Israël de la part du tribunal de chaque tribu. Le tribunal de Réhouven n'est pas tellement compétent pour les problèmes de la tribu d'Issachar, sauf pour les cas généraux de la loi pour Israël, mais pour tout ce qui concerne les cas de la vie quotidienne à résoudre, il y a une spécificité de l'identité dans cette règle, que cette règle met en évidence. Pourquoi je mets cela en évidence? Parce que de notre temps, tout est, comment dire, laminé. Tout est
nivelé.
Et sauf dans les cas particuliers de résistance folklorique accusée. Et vous avez le juge de Beersheba, qui est censé être compétent pour Hedera, et le juge de Naharia, qui est censé être compétent pour Arad. À la longue, on ne peut pas ne pas se rendre compte quelque chose d'artificiel. Bien entendu, il y a une formation de base commune à tous les Dayanim, Il y a une connaissance de la Yiddishkeit propre à chaque manière d'être juif qui est différente. Et si on n'a pas, on n'a pas. Et c'est pourquoi il y a très souvent des erreurs, du point de vue de la loi, abstraite, ce n'est pas une erreur, mais il y a des inconséquences de décision de jugement, parce qu'on ne juge pas concrètement par rapport à qui on a affaire concrètement, mais on juge théoriquement par rapport à l'idée d'un juif théorique, au nom d'une loi théorique. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous avez compris la gravité du problème. Alors le fait que la Torah indique « Shoftim b'shoterim titen lecha, b'chol sha'alecha » n'est pas inutile. Est-ce que c'est bien clair, hein? Apparemment, on pourrait se dire, mais c'est de trop, « b'chol sha'alecha » dans toutes tes villes. Dans toutes tes villes, ça veut dire dans chacune de tes villes. « Asher Hashem melokecha noten lecha » que Hashem ton Dieu te donne, « Mishpatecha » selon tes tribus, « Veshafetu et ta'am mishpat tzedek » Ma
Quand je pense à ce qui se passe maintenant,
mais je ne sais pas. Commence pas que l'homme était juif. Mais chaque État, et ils jugeront le peuple en jugement de justice. Je reviendrai sur la définition des termes. Alors là, de manière assez directe, on se heurte à la difficulté d'exégèse habituelle lorsqu'on rencontre ce type d'enseignement. Il semble que tout cela, ça va de soi. Pourquoi est-il nécessaire de le préciser de manière aussi particulière? Et tous les commentateurs, en particulier nous allons suivre Rashi, vont mettre en évidence telle ou telle intention de la manière dont c'est formulé. Pour qu'une société fonctionne, qu'il faille des juges et des policiers, ça va de soi. Pourquoi c'est institué de manière aussi directe? Je prends ce premier exemple et après nous irons Rashi. Là, je crois que c'est cela qui éclaire un peu ce que j'indiquais tout à l'heure. On est obligé de lire dans la Torah ce qui se passe dans la société. C'est l'ordre. Les juges passent d'abord, et ensuite les policiers. S'il y a les policiers d'abord, et les juges après, c'est l'État policier, tel que, semble-t-il, de manière assez étrange, depuis quelques jours, on accuse l'État d'Israël d'être en train de le devenir, si vous suivez ce qui se passe. Medina Mishtara. C'est cette semaine que ça a été créé dans les rues. Vous avez remarqué?
Oui.
Non, je crois qu'il y a quelque chose de très simple à comprendre. Il y a le pouvoir législatif d'abord, et le pouvoir judiciaire, pas juridique, mais judiciaire, et Sgan, et auxiliaire du pouvoir législatif. J'étais très frappé par une déclaration du ministre de la police, demandant au juge d'aider la police à être policière. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça dépasse tout, quoi. Et voilà où on en est arrivé. Alors, c'est ce que la Torah appelle « Shoftim veshotrim ». Alors, on est Rashi. Et nous allons avoir là encore un exemple d'un Rashi très difficile, parce qu'apparemment, il est très simple. Alors, suivez Rashi avec moi. « Shoftim » Dayanim. Les Shoftim, c'est des juges. À Poskim, qui décide, qui décrète, est adigne le jugement. Qu'est-ce que Rashi veut nous enseigner? Dayanim, à Poskim, est adigne. Et c'est ça la définition d'un Dayan, celui qui est possédé du din. Alors qu'est-ce que Rashi veut nous dire? Réfléchissons ensemble quelques minutes. Essayez de proposer une hypothèse de. Tous les commentateurs de Rashi se sont accrochés là. Comme on dit dans l'étude, pshita, ça va de soi que c'est ça un chauffette. C'est un dayan qui donne le jugement. Les dayanim, apostim, metadim. Je vous donnerai quelques éclairages là-dessus, mais essayons d'abord de réfléchir. Est-ce que la question est claire, Ken? Qui peut proposer une explication? Pourquoi Rashi a tenu à nous dire ça?
C'est selon la Torah.
Pardon?
C'est selon la Torah.
D'abord, c'est pas ça qu'il a dit, mais c'est ça que ça veut dire. Baruch, c'est ce que ça veut dire. Dayanim, parce qu'il met à din. Le din, ça veut bien dire selon la Torah.
Est-ce qu'on ne s'attendrait pas à notre langage?
Répète plus fort.
Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à notre langage?
Tu as dit autre chose tout à l'heure.
Peut-être plus hébreu, à notre langage plus hébreu de la part de Rashi. Adayani, Matani, Metani.
Non, non. Là, il y a une nuance dans Poskim qui est très importante. Et c'est ça le propre du Dayan. De trancher d'après les différentes, entre les différentes thèses ou hypothèses du jugement. Posek, ça veut dire trancher le jugement, le psak. Donc ça, c'est très précis. J'avais une fois indiqué ça à propos d'une autre étude. La Mishnah des Pirkei Avot dit « Asse les harav, veistalek min asafek. » Fais-toi un maître et sors du doute, istalek. Déprends-toi, min asafek, du doute. L'objet de la Mishnah, c'est de bien faire comprendre quel est le rôle du maître par rapport au Dayan. Les Mishnah des Pirkei Avot, c'est le bréviaire de la morale des Dayanim, vous savez ça. Et ce traité de la morale pour les juges qui est pris comme modèle pour la morale juive d'une façon générale. Soyez gentils, ne creusez pas les gens. Et effectivement, la définition du Rav, c'est pas tellement celui qui en sait plus que l'autre. Il y a un peu l'idée de nombre de la connaissance dans le Rav, les bouilles. C'est celui qui tranche lorsqu'il y a perplexité, lorsqu'il y a doute. Non, je vous avais indiqué que le mot de safek a les mêmes lettres que le mot de psak. C'est-à-dire que le mot de psak a les mêmes lettres que le mot de safek. Pour sortir du safek, il faut un psak. Le rab, c'est le posek. Très souvent, d'ailleurs, ça m'est arrivé aussi à certaines périodes, le maître qui enseigne, c'est un certain rab, mais le maître chez qui on demande comment il faut faire, comment est la décision, ça c'est un autre rab, le posek. Vous comprenez la différence. Je voulais d'ailleurs qui est le posek que je consulte depuis que le rab Kouk nous a quitté, c'est le rab Mordechai Eliyahu. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément celui qui est officiellement, bref, il y a une autorité de celui qui tranche et dont la volonté est souveraine sur la volonté de l'élève, indépendamment de la relation des intelligences et de transmission de connaissances. C'est recevoir sur soi une volonté de décisionnaire. Assez les harabes. Vous voyez le lien des deux indications de la Mishnah. Par conséquent, le mot de Poskim est tout à fait à sa place. Car un des commentaires qui indique cela, c'est qu'on a besoin de Dayanim qui soit vraiment Poskim. Tout simplement. Dayanim à Poskim et Adim, parce qu'il y en a trop qui ne sont pas Poskim et Adim, qui se servent du Shulchan Aruch comme un ordinateur pour déclencher des réponses, alors qu'il faut qu'il soit poskim, c'est-à-dire chaque cas doit être réétudié pour lui-même, vous allez me dire qu'elle est la Mishnah, de même si on est sûr à l'avance, par connaissance et par expérience, que la décision doit être ceci, on refait le procès, parce que chaque cas est différent, même si c'est le même. Quelle est la Mishnah des Pirkei Avot qui enseigne ça? Et vous, Metunim Badim, ça veut dire, d'abord le pshat, le sens que je cite là, c'est pas le pshat. Être matoun dans le din, ça veut dire être modéré dans le jugement. On se méfie des juges qui jugent. Je ne sais pas comment dire ça, mais vous comprenez l'idée. Le rôle du juge, c'est de justifier, c'est de rendre juste. On n'a pas besoin du juge pour condamner. Ça, on a l'accusateur général. Le juge va juger. Vitzdiku et la tzaddik, virchu et arracha. Je crois que c'est l'inverse dans le verset. Virchu et arracha. Et le. Hevu metunim badin, ça veut dire. Vous savez, il y a une espèce de vertige qui peut prendre. Ça vaut pour toutes les postes où il y a autorité. Il y a un vertige qui risque de prendre le juge, qui se croit obligé dans le sens fort, de condamner, d'être, comment dire, d'être, comment dire en français, la main de la justice, d'être le, celui par qui la justice va triompher, comme si la justice dépend de lui. C'est vrai aussi, mais c'est pas pour rien que la Mishnah a dit, et vous, maître Nim, m'a dit, soyez, on traduit, circonspect dans le jugement. Ça est le deuxième sens qui apparaît. Même si vous êtes sûr de la réponse, faites le procès. Parce qu'en faisant le procès, s'il y a un facteur nouveau qui apparaît, la réponse peut être différente. Il y a une lecture dans le drash que je voudrais ajouter. C'est clair jusqu'à la fin. C'est que ça consiste à comprendre et vous mettez une badine, adonnez-vous vous-même dans le jugement. Ça veut dire que le juge doit se juger pendant qu'il juge. Et vous, mettez-vous vous-même en question dans votre propre jugement lorsque vous jugez quelqu'un d'autre. Est-ce que l'idée est claire? Hein? Pour vous prendre un problème. D'ailleurs, il y a un des commentaires qui cite, je vais le citer dans le texte, qui dit à peu près la même chose, mais de manière plus chassidique. Une minute. Je trouve ça, comme je n'ai pas marqué. Sur le verset, regardez. Shoftim Beshotrim Titen Necha. Des juges et des policiers, tu te donneras à toi. C'est-à-dire à toi-même. C'est-à-dire les juges et les policiers, c'est pas pour juger quelqu'un d'autre, mais c'est pour juger toi-même. Shoftim Beshotrim Titen Necha. Et ça s'adresse au juge lui-même. Bien, alors on la demande déjà. Une première indication. Dayanim aposkim et adim. C'est la définition du dayan dont on avait besoin, le posek. Est-ce que c'est clair? Et effectivement, il y a énormément de tribunaux rabbiniques. Surtout en diaspora, je veux dire. Par excès de scrupules, les juges n'osent pas décider. Et c'est pourquoi vous avez énormément de tribunaux rabbiniques. Enfin, je suis surtout familier au problème qu'il y a dans les tribunaux rabbiniques en France, il y a énormément de cas qui sont en suspens, pas parce que les juges ne sauraient pas décider, mais parce qu'ils n'osent pas être poskim et décider. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Et en particulier, le grand principe talmudique de Koha Dehetera Adif, le Talmud définit quelle est la force des décisions prises dans le sens de faciliter la vie aux gens, alors que les juges risquent d'avoir la tendance inverse d'être conduits à décider de manière de rendre la vie la plus difficile aux gens. Comment dire ça? Pourquoi? Par crainte d'être possédé. Alors là, on a pris un mot important grâce à Rachid. Bien sûr que les dayanim sont indispensables au fonctionnement de la cité, mais leur rôle, c'est d'être posek. C'est au fond d'être à la place de Moïse en son temps. Comment Moïse déciderait d'après la Torah lorsqu'on posait à Moïse une question? C'est ça que le dayan doit être. J'ai un peu poussé les choses à la limite, mais je pense que vous avez compris quelle est l'idée. Bien, il y a d'ailleurs d'autres commentateurs de Rashi qui, en s'appuyant sur la suite de Rashi que nous allons lire, indiquent qu'il faut quand même distinguer entre le rôle du chauffette et le rôle du chauffeur. Le chauffeur ne doit pas s'instituer comme étant lui-même celui qui s'approprie la force légale de faire appliquer la décision de justice. Ce doit être deux instances différentes. La décision de justice et d'autre part, ceux qui doivent la faire appliquer. Donc Dayanim apost qui metadim, et pas Dayanim arodim metadim. Et ce n'est pas les Dayanim qui doivent imposer le din. Il faut qu'il y ait deux instances complètement différentes. La juridiction, la magistrature, disons, et d'autre part, le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le bras du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la police. Mais je crois que l'enseignement le plus important qui apparaît là, à l'expérience, c'est l'ordre. Dans un état normal, dans une société normale, c'est le juge d'abord et le policier qui ne fait que ce que le juge décide, et non pas l'inverse, que le policier décide et ensuite que le juge justifie ce que le policier a décidé. Ce qui, encore une fois, est en train de risquer d'arriver avec le gouvernement actuel, où on voit cette importance hypertrophiée du ministre de la police par rapport aux autres ministères, et en particulier le Sar Mishpatim, comme on dit en français, le ministre de la Justice. Il est évident que nous avons un régime où le ministre de la police est beaucoup plus important que le ministre de la Justice. Voilà, vous voyez à quel point la Torah est actuelle de manière éternelle. Alors ensuite dans Rashi, vous allez voir quelle est la définition de Shetrim. C'est dans Sanhedrin, page 15, Sicha, page 16, à Rodin, qui impose, qui s'instaure comme souverain sur Rodé, c'est comme Rodan. Rodan, ça veut dire tyran. À Rodin et Aram, Achar Mitzvotam, Mitzvatam, qui est Rodin, aidez-moi à traduire, qui impose au peuple, après la décision de justice, chez Makim, qui frappe le Koftim et qui impose Bemakel, Birtsura, et pas seulement à Hazar, Hachim Kavel Alavet Dinashovit, jusqu'à ce qu'il accepte le jugement du juge. Mais encore une fois, vous voyez l'importance de l'ordre. Et c'est le juge qui décide, et non pas l'inverse. Que la police définit comme, comment on dit, suspecte. Plus que non, en français, mais définit comme, comment on dit, ravalien. Comme délinquant, quelqu'un que le juge n'a pas défini comme délinquant et se met à le frapper avant la décision de. Voilà, exactement ça. C'est clair? Bechol Sha'alecha, dans toutes tes portes, Bechol Aïr Va'ir. On lit la fin du verset. Vechashtu et Taha Mishpat Tzedek. C'est différencié entre Mishpat et Tzedek. Mishpat, c'est le jugement. Tzedek, c'est la justice. C'est-à-dire, dans Mishpat, il y a le comportement légal du tribunal qui doit décider quelle est la décision de la loi de justice pour le cas particulier qui est en train d'être jugé. Ça, c'est le Mishpat, le jugement. Alors que Tzedek, c'est l'intégrité de la justice, l'intégrité morale, de la loi morale érigée en justice. Est-ce que, jusque là, vous avez une question ? On va lire, si vous voulez, dans le verset, une petite nuance de ce qu'on a déjà appris. Et ça nous fera revenir un peu sur ce qu'on vient d'avoir dit. Si effectivement, il y a l'ordre, les juges d'abord, les policiers ensuite, si effectivement, il y a des tribunaux spécifiques pour chaque ville et pour chaque tribu, alors ils jugeront le peuple d'un jugement de justice, de vérité juste. C'est lié. Si ces conditions-là sont accomplies, alors il y a une sorte de promesse La conséquence est que Veshav Touetaram, Mishpat Tzedek. Parce qu'effectivement, ça va de soi qu'on ne parle que de juges qui sont censés être intègres. Prenons Rashi. Veshav Touetaram. Vient dans Rashi. Dans le verset 18 à la fin. Mais né d'Ayanim Mumchim, nomme des juges, je traduis d'abord par compétent, mais Mumché c'est plus que compétent, c'est-à-dire spécialiste des cas de jugement qu'ils ont à juger. Vous avez des juges qui sont compétents pour tel genre d'affaires et pas pour tel genre d'affaires. Alors c'est le Mumché, c'est le spécialiste de tel ou tel secteur de l'activité judiciaire. C'est... On ne demande pas à n'importe qui une expertise sur n'importe quoi. On demande qu'à celui qui est spécialiste du problème dont on traite d'en être l'expert. Déjà, c'est très différent. Pardon, c'est très difficile d'être un expert. Chaque fois qu'un tribunal convoque deux experts, il y a trois opinions. Mais malgré tout, il y a cet avertissement qu'il faut se méfier au moment où on nomme un juge. Parce qu'une fois que le juge est nommé, la justice va dépendre de lui. Or, je crois qu'il y a une règle traditionnelle qui n'est plus vraiment employée. Les juges passent des examens d'école, et c'est comme ça qu'on les nomme, indépendamment des tractations de type politique de telle ou telle faction de la population. Je ne sais pas si vous suivez comment on nomme les juges, en général d'ailleurs dans les pays contemporains, mais en Israël. Alors que dans les temps traditionnels, le juge était nommé par le juge précédent. À la fin de sa vie, le juge précédent désignait parmi tous ses disciples éventuels possibles pour le poste de successeur, c'est le Dayan. Le précédent qui désignait après moi, c'est un tel. Alors qu'aujourd'hui, les règles sont assez inverses. Il y a une espèce d'élection à la suite des critères qui sont en général objectivement légitimes, mais qui n'ont plus rien à voir avec la règle traditionnelle de la désignation du juge. Alors, nomme des juges compétents, les tzadikim et justes, les tzadikim. L'Ishpot Tzedek, pour juger un jugement de justice. De manière très très délicate, ici le commentaire signale qu'il est possible qu'il y ait des juges qui ne soient pas intègres. Cette idée qu'un Dayan pourrait ne pas être intègre est une idée difficile, mais on voit très bien que de manière plus ou moins indirecte, le commentaire l'indique. On invite à méfier. Parmi les Dayanim, il peut y avoir les Tzadikim, il peut y avoir les Rechaim. Alors on ne nomme que des Dayanim que tu sais être Tzadikim. Vous voyez, il y a là un problème extrêmement important. La fonction ne coïncide pas forcément avec la vertu qui devrait être nécessaire à la fonction. Et aujourd'hui, ce sont les fonctions qui briment les vertus qui devraient être au contraire. Les critères même de la fonction elle-même. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est inquiétant. Alors, on continue le verset suivant.
Une question.
Oui.
Je pense au premier verset du livre de Ruth.
Très bien.
Oui, on dit que les juges jugeaient et qu'il s'est présenté comme un malheur, comme une catastrophe. Quel était le caractère de...
Je vais reprendre ce verset, oui. C'est Vahi, Meshfot Ashoftim, Vahi, Rahabaret. Le chef du verset, c'est le sens suivant. Le chat simple, c'est une indication historique. Et c'est arrivé au temps où les juges jugeaient, c'est-à-dire au temps où le pouvoir était le pouvoir des juges, avant que le pouvoir royal soit institué à partir de Salomon et David, et une période entre Josué et le temps des rois, c'est la période des juges. Je ne sais pas si vous avez lu un livre français qui s'appelle Salambo. C'est de qui ça?
Flaubert.
Qu'est-ce que vous êtes savant? Vous êtes en salle à bout. Une fonction des juges carthaginois phéniciens, ils s'appellent les suffètes. Je ne sais pas si vous rappelez de ça.
Oui, les
suffètes. Et les suffètes, c'est une chose typique. Et alors, il y a eu une organisation de la société où c'était le juge qui était le pouvoir à la fois politique, juridique et militaire. Ça a été le cas d'ailleurs en Israël avant l'installation de la royauté et la séparation. Eh bien, le premier verset donc, du livre de Ruth indique cette période d'un point de vue historique. C'était au temps des juges. Seulement le fait que dans le verset, il y est Vahi, Mimeshkota Shoftim, Vahi Ra, Varet. Ce lien, au temps où les juges jugeaient, il y eut une famine. Le commentaire va indiquer qu'il y a un lien. La manière dont les juges jugent est cause de l'état de la société. Et en termes contemporains, en termes modernes, on peut dire l'état de l'économie va dépendre de l'intégrité de la justice. Il y a un lien entre l'intégrité des tribunaux et l'état du problème économique dans une société donnée. Et c'est indiqué dans beaucoup de missionnaires du péché à l'autre. Si la justice fonctionne de manière intègre et intégrale, l'économie se stabilise. Sinon, et là, il y a toutes ces affaires, ces scandales, tout ces, qui génèrent toutes ces disparités, toutes ces inégalités, tout ce qui se passe dans une société contemporaine, où les juges ne sont pas intègres. Moi, je suis particulièrement frappé de ça. La plupart des scandales juridiques qu'il y a eu concernant les juges semblent bien, dans la société israélienne, avoir concerné beaucoup plus des Dayanim que des Shoftim. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là.
Je ne sais pas si j'ai pas écouté. Tu veux dire que les plus grands les scandales viennent parce que les juges ne jugent pas contre eux?
Non. Ce que je disais, c'est que il y a un lien entre le dérèglement économique, il y a une famille dans le pays, et la manière dont la justice est rendue. Mais ça, je disais, il y a déjà quatre phases. Ce que je viens de dire, c'est que ce qui me frappe beaucoup, on va voir jusqu'où va le texte. C'est que, enfin, j'ai suivi ça depuis l'existence de l'État d'Israël comme société fonctionnant de manière autonome. Il y a eu un certain nombre de scandales concernant des juges. Mais la plupart du temps, ce sont des juges religieux et pas des juges civils. C'est ça que je voulais dire. Tu es obligé de mettre les points sur les i. C'est ça le problème. C'est... Et c'est extrêmement grave. Pour revenir en tout cas à la question. C'est la raison pour laquelle le Midrash va lire Vahi Mimeshkot Ashoftim. C'était au temps où le juge était jugé. Et de là vient l'expression qui est très familière maintenant. Lorsqu'un juge était en situation de jugement et s'occupait de dire à chacun ce qui revenait d'après la loi, alors les plaideurs lui répondaient ne nous demande pas d'ôter la paille qui est dans notre œil, ôte la paille, la poudre qui est dans le tien. Voyez, puis mes cheveux, t'as sorti. C'est un peu très israélien, ça. Ma paille, ma poudre, ma paille, ma. c'est pas si je pourrais dans le vocabulaire des évangiles aussi. Eh bien, tu vois comment le Midrash indique cela. Lorsque les juges sont à être jugés, il y a une famille. Et quel est le lien de l'exégèse? Et les juges sont à être jugés, quand ils se mettent à juger, au lieu de fonctionner comme juge, c'est-à-dire de stabiliser la justice dans la société, de justifier dans le sens étymologique. On n'a pas besoin des juges pour accuser. Ça, c'est l'accusateur. Quelle est la Mishnah qui indique ça? C'est Ataas, Asmechat, Kerokha, Dayanim, ça s'adresse au juge. Ne fonctionne pas comme un avocat, que ce soit l'avocat de la défense ou l'avocat de l'accusation. La fonction du juge est une fonction extrêmement difficile. J'ai eu un maître, je vais dire son nom d'ailleurs, qui était un grand Dayan, c'est le Rafin Gerund, c'est son nom du Bracha. Je ne sais pas s'il y a des Algérois parmi eux. Ça s'appelle du Raffinero Tritash Kenaz d'ailleurs. Et qui a été le fondateur du Bédine de Paris après le rapatriement des Algériens. C'était un homme extrêmement scrupuleux. Il était cardiaque. Et il me disait, je sais très bien que ma maladie vient de la fonction du juge. Chaque fois que le téléphone sonne, je me demande quelle catastrophe il faut que j'arrange. C'est-à-dire, il y a une. Je ne sais pas si c'est clair, c'est juste. Et alors, il est devenu vraiment cardiaque. Et être cardiaque, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça ne fait pas tellement du bien. C'est une maladie pénible. Quoi qu'il en soit, comment et pourquoi ? Dans la société juive traditionnelle, le dayan, c'était la figure respectable de la société. Il y avait les rabbins, il y avait le haram, mais quand il y avait le dayan, qui était aussi rabbin, qui était aussi haram, mais qui est dayan, ça c'est autre chose. Vous voyez donc l'indication que nous avons. La fonction du juge, c'est pas de juger dans le sens d'accuser, c'est de rendre juste, de rendre sadique celui qui était rachat. Et c'est dans le jugement que ça se fait. Or, nous avons comme fond du problème un problème de civilisation énorme. C'est les civilisations, c'est surtout Rome qui est là, qui substitue la légalité à la moralité. Alors que tout le message de la Torah, c'est de prendre la moralité comme légalité. Donc on prend la difficulté. C'est que les dayanim risquent de fonctionner comme des juges romains. D'ailleurs, la notion du droit dans les sociétés modernes, c'est le droit romain. Et c'est le légalisme pointilleux, le pharisaïsme entre guillemets, des calomnies romaines contre les rabbins. Oui, vous voyez ce qui se passe. On comprend pourquoi tous ces détails nous sont donnés dans la Torah. Celui qui est le plus vulnérable au risque de transformer la moralité en légalité, c'est précisément le juge. Alors méfiez-vous. D'où ce verset. La famine, et la famine dans tous les niveaux de lecture, c'est pas seulement la famine économique du pain, la farine, c'est la famine de la parole de Dieu. À partir du moment où il n'y a pas dans une société le dayan à qui on demande qu'est-ce que Dieu décide quand j'ai besoin de savoir ce que la Torah décide, c'est une société perdue. Vous voyez à peu près la gravité du problème. Je ne sais pas si vous avez suivi toutes ces dernières années, tous ces psaques farfelus qui paraissent dans les journaux, surtout dans les périodes des fêtes, et vous avez tel ou tel dayan qui décide un psaque comme ça, kafkaïen, et on ne s'en rend pas compte, on ne s'en rend pas du tout compte de ce qui est écrit dans la Torah, Mishpat Tzedek. Je ne vais pas donner d'exemple. Est-ce qu'il y a une autre question? Tu l'as compris, oui. Il est déjà dit. Alors, allons-y. L'otate mishpat. Tu ne feras pas dévier le jugement. L'otakir panim. Tu n'auras pas de reconnaissance du visage. Différemment, ça veut dire tu ne préféreras pas.